un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Je voyage en Afghanistan depuis 24 ans. La première fois, c'était sous les premiers talibans, au tout début du siècle. Ils avaient promulgué toutes sortes d'interdictions qu'ils faisaient littéralement respecter à coups de fouet. Interdit d'écouter de la musique, de chanter, de danser, de représenter des êtres vivants et même des animaux sous forme de photographies, de les filmer et même de les sculpter. Interdit également les jeux de cartes, les combats d'animaux, les cerfs-volants, le théâtre. Obligation de prier, de laisser pousser sa barbe, de porter une tenue traditionnelle pour les hommes. Les femmes, elles, ne pouvaient pas sortir seules ni travailler et n'étaient pas autorisées à aller à l'école après la primaire. Une manière de bousiller toute une génération. À cette époque, Kaboul était avec Grozny la capitale la plus détruite du monde. Environ 80% de la ville avait été rasée par la guerre civile et 50 000 Afghans étaient morts à Kaboul. D'une certaine façon, les talibans n'avaient pas eu de mal à faire plier les Afghans à leur loi moyenâgeuse, une interprétation de la charia, je le précise, qui est contestée par la plupart des musulmans. Et dans de nombreuses régions, de toute façon, ces lois, c'était déjà la coutume, la culture patriarcale. Quand les Américains ont libéré le pays en 2002, les dollars se sont mis à couler à flot. Les Afghans de la diaspora sont revenus, les gens des villes se sont mis à goûter au modèle occidental et le pays entier à son économie. Jamais je n'aurais cru qu'un jour on pourrait revenir en arrière. D'ailleurs, quand les talibans ont repris la capitale en 2022, j'ai continué à croire que les talibans d'eux, ce serait différent, qu'ils seraient plus modérés, qu'ils ne risqueraient pas d'isoler le pays de la communauté internationale et de le priver de ses subsides. Alors quand j'ai vu à la fin du mois de juillet dernier qu'ils avaient publié une nouvelle loi pour la prévention des vices et la propagation des vertus, 114 pages de réglementation qui reprennent à peu près tous les articles de la précédente loi, j'ai compris que je m'étais encore trompée. Et puis je me suis souvenue de la phrase célèbre qui dit que les grands événements de l'histoire se produisent pour ainsi dire deux fois, la première fois comme une tragédie, la seconde comme une farce sordide. Alors j'ai voulu essayer de comprendre comment ça allait marcher, l'application de cette loi cette fois, dans un contexte si différent, qui allait trinquer en premier, et si ces nouvelles dispositions allaient isoler le pays tant que ça. Pour en savoir plus, j'ai demandé à deux jeunes femmes de m'envoyer des notes vocales. La seconde, nous l'appellerons Mina, elle vit à Kaboul depuis plus de 10 ans. Et la première, c'est Amida Aman, qui a récemment lancé Radio Begum, une radio afghane pour les femmes. Elle vit en Europe, mais fait de fréquents allers-retours. Voici quelques jours de son dernier séjour à Kaboul et des extraits de la radio Begum.
به نام خداوند بزرگ سلام خدمت همه شما عزیزای که شنونده برنامه راه خوشبختی از رادیو بیگم هستید.
Au nom de Dieu le miséricordieux, bonjour à tous les auditeurs de l'émission La Voix du Bonheur de la radio Begum.
تماس داریم، تماس میگیریم.
Nous avons un appel, nous prenons l'appel. Excusez-moi, ça fait 3 ans maintenant, même un peu plus de 3 ans que tous les jours j'espère que les écoles réouvrent. Mais je suis vraiment fatiguée d'attendre. Et avant chaque nouvelle année scolaire, le gouvernement nous donne un espoir. Mais les écoles n'ont toujours pas rouvert. Ce sont des paroles en l'air. Et ma mère essaye toujours de me donner de l'espoir et elle me dit que les conditions vont s'améliorer. Mais ça ne me console pas du tout et j'ai même déjà tenté de me suicider. Et je ne sais vraiment pas quoi faire. J'aurais aimé que vous me montriez une solution. Est-ce que vous avez essayé de trouver des alternatives à l'école, d'apprendre d'une autre manière? Non, je n'ai plus aucune énergie pour ça. Je n'ai plus de motivation.
Bonjour Sonia, je viens d'arriver à Kaboul, on est dimanche, à l'aéroport rien à signaler, tout était tranquille, une horde de talibans était assis par terre à regarder les voyageurs arriver, je les ai bien regardés droit dans les yeux, mais ils m'ont pas semblé beaucoup plus inquiet que ça ou énervé. Donc, tout s'est bien passé. À noter qu'à l'aéroport de Kaboul, lorsqu'on arrive, les passeports sont contrôlés par une majorité de douanières femmes. Et quand on sort, il y a aussi au check-in des compagnies aériennes, des femmes qui font le check-in. Donc il y a du personnel féminin à l'aéroport. C'est apparemment bien mis en avant, visible, certainement pour un bon coup de com', en tout cas, c'est bien. Comme ça, quand on arrive, on est rassuré, on se dit, ben non, c'est pas si horrible que ça, puisqu'il y a des femmes qui travaillent à l'aéroport. Ça, c'est bien joué. Donc là, je fais un tour en ville, et pour l'instant, tout semble normal. Bon, là, nous sommes dans le centre-ville, donc c'est pas là où la répression est la plus grande, généralement. Et puis, selon mon chauffeur, apparemment, ils ont commencé à sévir dans les quartiers plus populaires, où ils demandent aux hommes d'arrêter de porter des t-shirts ou des vêtements occidentaux. En tout cas, ils commencent un petit peu aussi leur contrôle envers les mecs. Donc, c'est bon à savoir. Voilà, à plus tard pour d'autres nouvelles. Ciao!
Salut Sonia. Alors, depuis que les lois ont été promulguées, j'ai l'impression que tout le monde est un peu vit en suspens et en se demandant à quel point ça va être appliqué et dans quelle mesure. Il y a plus de brigades de PVPV, enfin ce qu'on appelle ici prévention du vice, promotion de la vertu. Mais je crois que tout le monde attend de voir un peu ce qui va en être. Il y a des femmes dans les rues de Kaboul. Certaines portent les masques qui servent à se protéger du Covid et maintenant qui servent à se protéger du regard des talibans. Et d'autres ont encore le visage découvert. Beaucoup portent des abayas. Il n'y a pas énormément de burkas. Et quand elles aperçoivent les brigades donc de PVPV qui sont vêtues d'une blouse blanche, repérable de loin, ben paf, elles se mettent le masque sur le visage. C'est un peu comme la musique, c'est-à-dire depuis l'arrivée des talibans, comme les autoradios n'ont pas été interdits, ben à chaque fois qu'on est en voiture et qu'on s'approche d'un checkpoint, ben le chauffeur baisse le volume et le remonte dans la seconde qui suit, après qu'on ait passé le checkpoint. Ben, les femmes avec les masques, pour l'instant, c'est un peu ça. Elles le mettent sur leur visage quand elles voient qu'elles risquent d'être contrôlées. Et puis, paf, dès qu'elles sont hors d'atteinte, elles le rebaissent.
Bon, il est samedi matin, on est le 14 septembre. Je me suis dans la voiture, on se rend à l'ouest de Kaboul avec deux des reporters de Radio Begum. Et pour la première fois, j'ai vu dans des grands carrefours les agents des vices et vertus. On les reconnaît bien avec leur uniforme blanc. Ils se tenaient gravement et je sens très très moche. J'admets, c'est la première fois que je les vois. Et autour d'eux, il y avait des femmes qui portaient sagement leur masque. Et en passant, bien sûr, le chauffeur n'a pas manqué de faire une blague, parce qu'on les appelle les kafanpoches. Ça veut dire les porteurs de linceul, en raison de leur tenue blanche. Donc, on les appelle les porteurs de linceul, donc les mecs qui apportent la mort et la peur. Voilà, ça fait bien rire tout le monde, mais je peux vous dire que leur tête n'est pas rigolote du tout. Ils ont vraiment des sales têtes. Ils sont plutôt gros. Grosse barre noire et un turban. Et leur uniforme blanche, en fait, c'est une blouse blanche d'infirmier ou de médecin qu'ils portent. C'est ça qui est complètement grotesque. Bon, là, j'arrête de parler parce qu'on arrive à un checkpoint taliban qui est juste avant le bureau. Donc, je vais planquer mon téléphone.
Bonsoir, Sonia. Je suis allée dîner dans un restaurant avec des amis, un peu, c'est un restaurant assez fancy. Et pour l'instant, la bonne nouvelle, dans la section réservée aux familles, il y a encore des femmes qui font le service, donc qui travaillent. Voilà, et pareil, j'étais dans un supermarché tout à l'heure, et il y avait une femme à la caisse. Donc ça a l'air anodin, mais c'est vrai que c'est des petits moments comme ça, on se dit bon. Bon, après, c'est un restaurant assez chic pour Kaboul. C'est une espèce de palace au luxe ostentatoire, hein, avec des sols en marbre, des colonnes, des coupoles, des lustres dorés de style baroque, tous plus clinquants les uns que les autres. Et ce qui est fou, c'est que ce restaurant est toujours complet, alors que je pense que bien moins d'1% de la population n'y a accès. Mais il y a toujours du monde. On accède aux différentes salles par un ascenseur. Donc il y a un étage réservé aux hommes et un étage réservé aux familles. On m'a raconté qu'il y a pas mal de hauts dignitaires talibans qui dînent ou qui s'y retrouvent pour des meetings. Voilà. Bonne journée. Ciao.
Bonjour Sonia, cela fait 2 jours maintenant que je suis à Kaboul. Ces 2 derniers jours, j'ai passé la plupart de mon temps au bureau à parler à toute mon équipe, à toutes ces jeunes femmes qui semblent extrêmement inquiètes depuis l'annonce de cette nouvelle loi qui ne fait que confirmer le peu d'espace qu'on leur accorde. Et chacune est venue à son tour un peu me raconter ce qu'elle endurait ou ce qui lui est arrivé. Et mon message était de ne pas être inquiète, que pour l'instant, il n'y a pas de signe qui nous dise que, par exemple, les médias, notre radio va être interrompue. J'admets que c'est quelque chose qui les inquiète énormément, de savoir qu'est-ce qui va se passer si tout à coup, ils demandent aux femmes de ne plus apparaître ni à l'écran, ni sur les ondes des radios. Toutes ces femmes, elles sont environ une trentaine à travailler pour Radio Brigham, c'est les seuls salaires des familles généralement et c'est les seuls qui subviennent aux besoins de la famille et par conséquent, elles sont très inquiètes pour l'avenir et vous imaginez bien que pour moi, c'est très compliqué de leur assurer que les choses vont bien aller, mais je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Le but, c'est de ne pas se mettre en danger, mais il faut quand même garder un esprit de résistance, de ne pas capituler. Et surtout, je leur ai demandé de passer ce message aussi de manière détournée aux femmes, aux auditrices dans leur programme, ce souffle de courage et de résistance pour donner un peu de baume au cœur à celles qui nous écoutent.
Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, ma chère sœur. Bienvenue dans notre émission. C'est la radio Begum. Oui, oui, on vous écoute. Ma vie n'est pas sans problème. Moi, j'ai rencontré des problèmes qui ont même fait que j'ai voulu arrêter de vivre. J'ai voulu me suicider. Et je me suis dit, pourquoi me tuer? Ce n'est pas une solution. Je souffrirai ici dans cette vie et dans l'au-delà aussi. Est-ce que vous pouvez nous partager votre problème, cher Nilab? C'était un problème familial dont je ne peux pas parler. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je suis satisfaite de ma vie. J'essaie de toujours rester heureuse. Vous aviez diffusé quelque chose à ce sujet dans une de vos émissions il y a quelques jours. Le sujet était « Comment peut-on résister tout au long de la vie ?» Vos émissions redonnent espoir en la vie. J'enregistre même les émissions que je n'arrive pas à écouter en direct.
La pression familiale aussi a été mentionnée à plusieurs reprises par plusieurs d'entre elles. Pour les plus jeunes, leurs pères, leurs frères leur demandent de se soumettre aux règles, de ne pas faire de zèle ou de ne pas vouloir résister. Ça revient aussi ces derniers jours, beaucoup dans les témoignages des femmes qui nous appellent, qui nous disent là, j'ai le peu de liberté que j'avais, maintenant c'est mon père qui me demande de ne pas sortir parce qu'il a peur pour moi. Mon frère a peur pour moi. Il y a une rumeur dans la ville qui dit qu'il y a des filles qui ont été arrêtées, qui ont été gardées pour la nuit au commissariat. Et ça, c'est l'argument choc, l'argument qui fait le plus peur à ces femmes parce que il y a rien de pire que d'être embarquée et d'être gardée pour la nuit dans un commissariat parce que c'est l'honneur de la famille qui est bafoué. Et on leur met une pression de dingue et forcément, ça les décourage.
Je suis Saba, j'appelle de Nimroz et je voulais demander l'avis du docteur. Je vous en prie. Ma chère sœur, ça fait quelque temps que j'ai un problème que je pourrais qualifier de social. Comme vous le savez, ils ont annoncé que les filles ne devaient plus sortir et qu'elles ne peuvent plus se promener sans un homme membre de leur famille. Plusieurs annonces de ce genre ont été faites et ça m'inquiète beaucoup.
Bah,
oui. Ça a beaucoup affecté ma santé mentale. D'autant plus que j'ai entendu qu'ils avaient arrêté des femmes qui étaient sorties seules, sans hommes. On les a arrêtées, on leur a demandé leurs papiers, elles ont été verbalisées et elles ont eu une amende. Et ça m'a beaucoup choquée. Et ça me fait peur aussi. J'ai entendu qu'ils avaient arrêté une de mes amies la dernière fois. Elle était pourtant bien couverte, je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêtée. Parfois, ma mère me conseille de sortir de la maison, d'aller me promener, d'aller faire quelques achats pour moi, pour changer d'air. Mais j'ai vraiment peur de sortir. Et plus rien ne me fait plaisir. Oui, je comprends, ma sœur. C'est vrai que c'est difficile de supporter ces conditions. Mais il faut aussi avoir à l'esprit que tout ce que vous entendez n'est pas forcément vrai. Et parfois, la peur de certaines choses peut être plus grande que la chose elle-même. Mais je comprends que les conditions soient compliquées pour vous. Merci beaucoup, j'aime beaucoup votre émission. Et j'espère qu'on pourra discuter de mon problème, car j'ai besoin de conseils.
Salut Sonia, une petite note de Kandahar, où je suis arrivée ce matin. Voilà, Kandahar, cette ville hyper conservatrice, et où l'émir, donc le leader suprême, comme l'appellent les talibans, enfin le dictateur, quoi, est supposé demeurer. Moi, je suis venue rendre visite à une amie à Rezou, qui est une afghane d'une petite trentaine d'années, et qui est chef d'entreprise d'une boîte qu'elle a créée il y a un peu plus de 3 ans, avant que les talibans prennent le pouvoir, et qu'elle continue à faire fonctionner. Et sa boîte produit des serviettes hygiéniques lavables et donc réutilisables. Voilà, elle a une 50aine de femmes qui travaillent à Kaboul. Pour elle, une 50aine de femmes qui travaillent à la production à Kandahar également. Et elle se bat pour que cette boîte puisse continuer à exister. Donc j'ai passé la journée là-bas et ça faisait tellement du bien d'être au milieu de ces femmes, parce qu'à Kandahar, les femmes, on ne les voit absolument pas. Pour le coup, autant à Kaboul, on en voit encore dans les rues, autant à Kandahar, elles sont sous la burqa. Et c'est toutes des femmes qui sont dans des situations très très dures, très précaires, de jeunes veuves, plus ou moins jeunes, mères de plusieurs enfants, une qui était mère de 14 enfants d'ailleurs, et avec des maris qui sont soit décédés, soit drogués, soit compris une autre femme. Voilà, elles se retrouvent comme ça à devoir nourrir leurs enfants et la famille. Et grâce à ce travail, elles peuvent subvenir à leurs besoins. Il y a aussi des très jeunes filles qui étaient étudiantes et qui n'ont plus accès malheureusement à l'université et dont les parents ont perdu leur travail. Tout ça n'est absolument pas caché. Parce qu'il faut savoir que pour l'instant, les femmes ont le droit de travailler dans le secteur privé. Donc, ce qui fait qu'il y a et des femmes chefs d'entreprise comme ça, qui sont devenues encore plus chefs d'entreprise depuis la prise de pouvoir des talibans, parce qu'elles ont été interdites de bosser dans le secteur public, enfin en tout cas dans les ministères et les administrations. Elles continuent à se battre. Après, malheureusement, dès qu'on commence à discuter avec l'une ou avec l'autre, c'est leurs vies sont truffées de tellement de tragédies et c'est tellement violent à entendre ce genre d'histoire.
Mon mari est vraiment quelqu'un d'inutile. Il ne pense pas du tout à construire quelque chose dans la vie. Il est irresponsable. Il est accro à la drogue. Il s'éloigne de tout le monde, de tous ses proches, de tout ce qui est fête et rassemblement. Il reste dans un coin de la maison. Parfois, je me dis qu'il vaut mieux ne pas vivre du tout plutôt que de vivre une vie comme celle-ci. Car nous n'avons pas de travail. Je souffre aussi de la pauvreté. L'autre jour, je ne pouvais même pas téléphoner car je n'avais plus de crédit de téléphone. J'ai eu besoin d'appeler ma fille. Elle m'a laissé plusieurs appels manqués, il fallait que je la rappelle. Et pendant ce temps-là, mon mari dort. Je ne sais pas quoi faire, je suis complètement perdue. Je t'assure, cher Sidika, tous les soirs, avant de m'endormir, je fais ma prière et je me dis, « Mon Dieu, si tu veux me rajouter plus de peine, il ne vaut mieux pas. autant ne pas vivre du tout. J'aurais préféré mourir plutôt que de vivre toute la souffrance que j'ai vécue jusque-là et de voir la souffrance de mes enfants aussi. Et moi, quel est mon avenir? Qu'est-ce qu'on sera dans un an? Aujourd'hui, j'ai l'impression de ne même plus marcher sur mes deux pieds. Et je suis sûre que dans un an, je ne pourrai même plus ramper. J'ai les cheveux blancs, la peau complètement ridée, et je souffre tous les jours. Ce n'est pas une vie de souffrir autant. Je vous appelle à propos de mon père. Il se comporte très mal avec ses enfants. Ma petite sœur, par exemple, il ne lui parle pas du tout. Et depuis que je suis petite, je ne me souviens pas avoir mangé à la même table que lui une seule fois. Il a toujours été violent avec mon grand frère, par exemple, comme il l'a été avec moi. Avec ma mère, c'est différent parce que ma mère ne répond pas, elle ne dit rien. Il peut dire ce qu'il veut, elle ne répond pas. Ça fait très longtemps qu'il est menaçant avec elle. Elle a peur de lui. On lui a dit qu'on voulait aller à l'école, voir à l'école coranique. Il nous a dit qu'à la madrasa, on nous apprend le judaïsme. Et donc il nous a refusé d'aller à l'école, au prétexte qu'on n'apprend rien. Il pensait qu'on voulait à l'école pour prendre les numéros de téléphone des garçons. Il suffit qu'on soit debout près de la maison pour qu'il pense qu'on regarde les garçons qui passent. Il a toujours des idées malsaines. Quand on l'entend parler, on croirait qu'il est le meilleur être humain sur Terre. Hawa, que fait votre père dans la vie? Est-ce qu'il travaille? Mon père se dit Mola car il a étudié et appris par cœur le Coran. C'est pour ça qu'il dit qu'il est Mola, mais il a une activité libérale, il travaille à la faculté. Et malgré le fait qu'il ait une bonne situation financière, il ne dépense pas beaucoup pour sa famille. Il n'a rien fait pour le mariage de mon frère. Et j'ai toujours voulu pouvoir me marier avec quelqu'un de bien. J'ai donc choisi quelqu'un qui me paraissait être un homme bien, même si je ne le connaissais pas très bien. On est fiancés pour l'instant. Lui a déjà une femme et j'ai accepté cela. Et on est fiancés depuis un bon moment, on n'a pas encore fait le mariage religieux. Et il a perdu son travail et il dit qu'il n'a plus d'argent pour qu'on se marie. Et quand je lui demande quand est-ce qu'on se marie, il me répond « Fais ta prière et ça arrivera ». Ou quand je me plains de quoi que ce soit, il me dit seulement « Fais ta prière, si tu es quelqu'un de bien, il ne t'arrivera rien de mal ».
Salut Sonia, j'espère que tu vas bien.
Hier, quand j'étais dans l'avion qui me ramenait de Kandahar à Kaboul, j'avais un siège près de la porte de secours. Et il y a un steward qui arrive et qui me dit « Ça va, vous êtes confortable près de la porte de secours ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Parce que normalement, vous ne pouvez pas être là. » Je dis « Ah bon ?» Les femmes sont interdites près de la sortie de secours. Et je les regarde, je dis, mais il y a qu'en Afghanistan. Enfin, je veux dire, encore, ça aussi, on va interdire les femmes d'être à côté des portes de secours dans un avion. Et en fait, il a senti que ça allait glisser sur un autre terrain. Et du coup, il m'a laissé après de la sortie de secours.
Et en fait, je viens d'entendre une histoire évidemment pas très drôle. J'ai rendu visite à un ancien musicien. Hier, en fait, il s'est fait arrêter à un check-post parce qu'il n'avait pas de barbe. Et il y avait les gens de PVPV. Plus talibans qui sont au checkpost normalement. Ils ont voulu checker son téléphone et en fait, lui dedans, il a plein de vidéos de lui et de sa femme qui était musicienne aussi. Donc il a lui-même cassé son téléphone. Du coup, il s'est battu avec les talibans et ils l'ont cassé une dent. Donc aujourd'hui, il avait une dent en moins et un téléphone qui ne fonctionne plus. Ah oui, et sinon, je ne sais pas si tu as vu, mais dans les lois, c'est les Afghans quand ils font un repas et qui mangent des œufs durs, ils ont ce jeu où en fait chacun prend un œuf dur, enfin ça se fait en duo, et tu frappes ton œuf dur contre l'œuf dur de celui qui est en face de toi, et c'est à celui qui cassera la coquille de l'autre. Donc c'est vraiment un jeu, on ne peut plus enfantin. Ils appellent ça Tulkhamjang, la guerre des œufs. Enfin, c'est quelque chose de très ludique hein, et de totalement sans violence, eh bien ça aussi c'est interdit.
Bonjour Sonia. Hier, j'étais à une réunion officielle avec des internationaux et durant cette discussion, on a clairement annoncé ce que va être l'avenir et certainement la position de l'Occident et en particulier de l'Europe. Et j'admets que c'était une douche froide. En filigrane, on m'a bien fait comprendre que la sécurité de l'Europe l'emporte et on va se diriger vers une normalisation. Les Occidentaux vont progressivement normaliser leurs relations, c'est-à-dire réouvrir des ambassades, des consulats ici. Et petit à petit, on va cheminer vers une acceptation, une reconnaissance de ce régime. Je ne vous raconte pas la douche froide. Autour de la table, on était principalement que des femmes, dont plusieurs femmes afghanes. Et j'admets que je suis reparti le cœur bien lourd. Et donc voilà, c'est officiel. On est seul maintenant pour se défendre et je pense que le droit des femmes passe en énième position, c'est bien confirmé. Bonsoir Sonia, nous sommes dimanche soir. J'étais avec quelques filles de la radio pour mon dernier soir. On est sorti pour manger une glace, manger une pizza dans un des seuls lieux d'un petit havre de paix au plein centre de Kaboul qui s'appelle Cafétaria. Il y a une grande, grande majorité de femmes. C'est un lieu qu'on a l'habitude de fréquenter avec les filles. Lorsqu'on a envie de se détendre et de faire des photos, de rigoler, de laisser tomber un peu le voile, et bien on se retrouve à cet endroit. Et puis voilà. Et maintenant, on est sur le chemin de retour, on est dans la voiture. Il est 19h, il fait nuit. La Kaboul est calme. Et demain, je pars et j'ai déjà le cœur serré à l'idée de partir vers d'autres cieux et de les laisser dans leur tristesse. Bonjour Sonia, un dernier message de l'aéroport de Kaboul. Voilà, mes 10 jours sur place sont terminés. C'est toujours une grande tristesse pour moi de partir de Kaboul. Voilà, je pense que c'est un trauma de mon enfance. Chaque fois que je reviens à l'aéroport, j'ai le cœur serré parce que rien ne me dit que je pourrais revenir et si tout à coup le pays ne va pas m'être fermé.
C'était Les Afghanes sous la loi des talibans 2, un reportage de Sonia Kronlund réalisé par Emmanuel Geoffroy. Traduction et grand merci à Eva Nasseri ainsi qu'à Mina, à Aminda Aman et à Radio Begum. Sur notre site, à la page des Pieds sur Terre, des liens vers cette radio, d'autres associations d'aide aux femmes afghanes, des livres, des films pour en savoir plus. La journée spéciale « Rendre la parole aux femmes afghanes » se poursuit sur France Culture avec notamment à 18h, Quentin Lafay recevra Chekeba Hachemi et Solène Chalvon-Fioriti. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue-Sébastien.